Vous écoutez RTL.
Il est 11h03, vous êtes sur RTL, c'est le début d'À la bonne heure avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie, et nous retrouvons naturellement Marie Guerrier à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais place maintenant à la bonne heure avec notre invité Boris Cyrulnik qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous ne nous avez pas apporté la chaleur, même si vous venez du sud.
Non, j'aurais bien aimé, mais vous trouvez, c'est la Sibérie ici.
C'est la Sibérie, vous avez vu le temps qu'il fait à Paris, il fait très 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 froid. Alors, je vais vous présenter dans un instant, mais comme tous les mardis, juste après le journal de midi, place au canular téléphonique d'Élise et Moon. Et il y en aura un parmi nous qui sera très concerné. On verra ça tout à l'heure. On se demande parfois s'il est tout à fait normal, mais si elle était normale, elle séduirait beaucoup moins. Puis qu'est-ce que la normalité, n'est-ce pas, professeur? Eh bien, Joël Goron est avec nous.
Bonjour tout le monde.
On va exploiter le concept d'hystérie aujourd'hui. Oui.
Régis, vous en êtes parfait exemple. Éric Dussard, se marier sans se connaître, c'est une idée de fou. Et c'est pourtant ce qui se passe toutes les semaines à la télé. Il nous en parlera dans son zapping télé. Éric Dussard.
Bonjour à tous. Effectivement, cette idée complètement folle de marier des inconnus. Une émission d'M6 dont c'était le dernier numéro hier.
Ça a très bien marché.
3 300 000 téléspectateurs. C'est le deuxième programme le plus regardé en France hier.
Il paraît qu'on n'entendait rien.
Oui. Alors attendez, on va parler de tout ça. Et on fera le bilan surtout. Parce qu'il y avait trois couples qui étaient en lice. Vous verrez, ça a été une vraie réussite.
D'accord. Et puis Régis Maillot qui est avec nous avant de déclencher sa grenade ce soir à l'Alhambra.
Oh là là, ça va exploser. Mais enfin non, c'est une explosion de rire. Hein. Rassurez-vous, on n'est pas du genre. Oui. Je suis là en attendant. Je vais vous écouter. Je vais essayer d'être dans le bonheur et le bien-être.
C'est important. Et bien surtout, si vous devez en donner après aux autres,
il faut être heureux.
Le test musical de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Est consacré aujourd'hui aux chansons qui ont pour thème les fous, la folie.
Il y a beaucoup.
Bien sûr.
Spécial Brigitte
et
Fontaine.
Il y a un très beau cadeau à la clé.
Oui, c'est les chanteurs ou les titres des chansons?
Non, c'est les titres des chansons. Ouais.
Très beau cadeau.
Ah.
C'est un multicuiseur Cookatome de Russell Hobbs. Ce monsieur Hobbs a fait des choses incroyables.
Il est très fort, monsieur Hobbs.
Et alors, il est compact, il a une grande capacité de 5 litres. Et il satisfera les goûts de toute la famille rapidement, simplement. Enfin bref, c'est le cadeau idéal. Alors pour cela, deux équipes vont s'affronter, évidemment. Et je voulais vous dire que grâce à ces 11 programmes, ils réalisent toutes les recettes. Il n'y a rien besoin. Vous appuyez sur le bouton, tout se fait sans vous.
Il faut mettre quand même des ingrédients dedans.
Et à 11h40, et bien à la place des invités surprises, nous avons les coquettes. Ces trois filles jolies et charmantes, mais qui chantent des horreurs.
Ah oui.
Elles viendront nous interpréter une de leurs chansons en direct. Allez, je vous présente maintenant notre invité. Depuis la nuit des temps, la folie fascine ou dérange. Et si, longtemps, il y avait les rois avaient des fous, ils pouvaient aussi le devenir. Comme Nabucodonosor, le roi de Babylone, qui se mettait à quatre pattes pour aboyer, ou la paix de l'eau, et non pas l'équivalent de 20 bouteilles de champagne, comme son nom pourrait le laisser croire. Un Nabucodonosor, vous savez, c'est 20 bouteilles.
Ça fait 15 litres, 20 bouteilles.
Il faisait ça comme un animal. Il y a aussi la folie du roi George III d'Angleterre, qui perdit l'Amérique et le Nord, pour finir à l'Ouest, débitant des phrases de 400 mots dans un écoulement de bave.
C'est drôle, ça.
Bref, il y a certes l'histoire étonnante de la folie, mais tout aussi passionnante est la folle histoire du traitement de la folie et les méthodes plus ou moins radicales et orthodoxes pour l'expurger du cerveau par de savantes trépanations, des décharges électriques ou autres expériences sadiques. Sans parler de l'évolution de la pratique de l'enfermement. Auteur de mains ouvrages pour aider à vivre, se reconstruire et surmonter les épreuves de la vie, il est tout à la fois éthologue, neurologue, psychiatre et psychanalyste, mais aussi un brillant auteur de best-sellers qui s'interroge aujourd'hui sur la place des psychiatres dans un nouvel ouvrage collectif, La folle histoire des idées folles en psychiatrie, qui laisse parfois penser que les plus fous ne sont pas forcément ceux auxquels on pense et que certains psychiatres auraient quand même mérité d'être enfermés dans un asile. Avec nous ce matin sur RTL, Boris Cyrulnik. C'est un peu vrai, non, Boris Cyrulnik?
Mais je pense que les psychiatres sont déjà enfermés dans des asiles.
Ah oui, c'est vrai, ils le sont déjà. Ils y travaillent.
Ils y travaillent.
Alors, je vous ai préparé une interview sur fou et folie dans un instant. Vous allez voir.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
À l'occasion de la parution chez Odile Jacob de La folle histoire des idées folles en psychiatrie, sous la direction de Boris Cyrulnik notamment et de Patrick Lemoine, eh bien, je vous ai préparé, Boris Cyrulnik, une interview fou. De quoi ou de qui êtes-vous fou ?
Je suis fou du midi, fou du chocolat, fou...
Ah, c'est une bonne maladie, c'est
pas mal.
Oui, ah, oui, oui, oui. Je suis fou de la maladie de comprendre. Je suis atteint de la rage de comprendre.
De la volonté de comprendre. Oui, c'est une folie, ça. De quoi ou de qui êtes-vous ? Je m'en fous.
De tout ce qui n'est pas ça, de la politique, de...
Ah, vous en foutez ?
Mais oui, puisque de toute façon, les politiciens sont folles. Oui. C'est-à-dire que, de toute façon, ils font des promesses de Père Noël et ils ne peuvent pas les tenir ensuite.
Bien sûr.
Donc, je pense que les plus fous ne sont pas toujours, comme vous l'avez dit.
Ça se comprend, ça. Ça vous arrive de vous amuser comme un petit fou ?
Par bonheur, souvent, oui. Même quand je travaille.
Oui, mais ça, je veux bien croire. Et vous conduisez comme un fou ?
Non, je conduis comme un chauffeur de taxi russe. Je me fais insulter parce que je conduis à 40 à l'heure au milieu de la rue.
Ah oui.
Et donc je me fais insulter et on me dit que je conduis comme un fou parce que je conduis à 40 à l'heure.
Mais la résilience, c'est une idée de fou.
C'est oui, absolument. Alors ça, vous dites pour me taquiner, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a pas pu le penser. Même le traumatisme, on n'a pas pu le penser parce qu'on pensait que quelqu'un qui était traumatisé était perdu. Et alors, penser qu'on pouvait récupérer quelqu'un qui était traumatisé, alors ça, c'est une idée folle.
Cela dit, vous avez fait école. Vous êtes un homme de pouvoir, mais est-ce que le pouvoir rend fou ?
Absolument, oui. D'ailleurs, pour vouloir le pouvoir, il faut vouloir être fou.
Oui. Ils sont déjà à la base. Ouais.
Et l'argent, est-ce que l'argent rend fou ?
L'argent rend fou. J'ai travaillé au Qatar et je me suis rendu compte à quel point l'argent rend fou parce que et même l'argent détruit les familles, détruit la culture parce qu'on n'a plus besoin de paix, on n'a plus besoin de travailler. Donc l'argent rend fou. Bonheur, on est nombreux à pas être
fou. On en est loin de là, surtout comparé au Qatar. Ça vous arrive de faire des folies ?
Tout le temps, oui.
Oui, vous avez l'air d'un homme si sage, si modéré.
Oui, mais c'est pas normal d'être sage. Je pense que pour vouloir vivre, il faut déjà, c'est un brin de folie, ça.
Oui, déjà.
C'est parce qu'on prend, d'abord on prend des risques.
On prend des risques.
Ça se termine toujours mal. Et pourtant, on prend le risque quand même. Et on est heureux quand même.
Vous avez parfois eu la folie des grandeurs.
Alors... oui, parce que quand j'étais enfant, j'ai eu une enfance un peu spéciale, je voulais devenir psychiatre, donc il fallait être...
Très tôt,
c'était la folie des grandeurs, il fallait être mégalomane pour rêver de devenir psychiatre dans les conditions où j'étais.
Est-ce qu'il vous arrive de penser que des gens a priori sains d'esprit, comme des hommes politiques par exemple, sont en réalité des fous alliés ?
Absolument, mais vous avez déjà voté pour eux.
Oui.
Vous avez voté pour
vous le savez, donc on le sait. Mais par exemple, Trump, il est fou.
Malheureusement, non.
Non,
on n'aimerait pas. Il manque ce brin de folie. Je pense qu'il est anormalement normal.
C'est inquiétant. Au fond, c'est peut-être inquiétant quand on est normal.
Mais bien sûr, c'est une forme d'aliénation. C'est-à-dire que si on a une personnalité, on n'est pas dans la normalité. Est dans la normalité, c'est qu'on est, on est raboté, on est un clone.
Il paraît qu'il n'y a rien de tel que d'être fou pour paraître sage.
Oui, je pense... Être sage, c'est réciter. Donc c'est être dans la doxa, c'est-à-dire dans les opinions convenues. Alors que le fou, lui, il a une fonction de poser des problèmes. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si le diagnostic de folie n'a pas de sens, la définition de la folie, personne ne peut la connaître.
Personne ne peut la connaître.
Non.
Qui est fou, qui n'est pas ?
Ben si, le fou, c'est celui qui ne pense pas comme moi. Il faut être fou. Donc pour ne pas penser comme moi. Puisqu'il n'y en a qu'un seul ici qui est normal, c'est moi.
Moi j'accepte très bien que les autres. J'accepte que les autres ne pensent pas comme moi, ça me paraît tout à fait normal.
C'est pas normal.
Ah bon ? Non, mais moi je me sens fou.
C'est bien.
Non, vous allez avoir du boulot avec lui, je vous le dis. Vous en prenez pour 30 ans de consultation.
Non, vous inquiétez pas, on est enfermé dans un studio.
On risque plus rien. La question importante aussi, c'est est-ce que vous aimez Nuit de folie ? Devez écouter ce titre, forcément.
Non, parce que ça va le plomber toute la journée. Il est monté à Paris uniquement pour entendre ça. Il y avait Liane Folly aussi. J'ai pas fait de blague autour de
Liane Folly. Il vient peut-être dans le blind test, on sait pas.
Ah oui.
Là, il me regarde vraiment comme un malade mental.
Non. Elle est...
Descends dans la boîte, tout ça.
Ah oui, c'est reprise de Michel Jonas.
Voilà, on parle de mais folie, là. Il vous a rien fait, Boris Cyrulnik, pourquoi vous l'agressez comme
ça? Il nous regarde vraiment comme des fous, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Alors, on va retrouver Boris Cyrulnik dans un instant. On va parler sérieusement maintenant de la folle histoire des idées folles en psychiatrie. Parce que c'est quand même incroyable, oui, c'est incroyable. L'évolution de la psychiatrie. Enfin, moi, je m'inquiète pour les psychiatres. On va vous retrouver dans un instant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons le... On peut dire professeur. Non, vous êtes professeur.
Oui. Directeur d'enseignement.
Donc professeur.
Pas tout à fait.
C'est vous êtes plus haut.
Non, c'est latéral, c'est marginal.
Bon, vous êtes Boris Cyrulnik, de toute façon, voilà. Tout le monde vous connaît. Vous publiez avec Patrick Lemoine, qui doit être professeur, lui, oui. La folle histoire des idées folles en psychiatrie. C'est un livre collectif et pluridisciplinaire qui retrace au fond l'histoire de la psychiatrie. C'est passionnant. Et on s'aperçoit que la psychiatrie, c'est-à-dire le fait de considérer la folie comme une maladie, et tenter donc de la soigner ou d'apaiser ceux qui en souffrent, est assez récente en fond. Longtemps, on a cru que les gens qui se comportaient anormalement étaient habités par les dieux ou par le diable. Et donc, c'est très récent de vouloir les sortir de là.
Tout à fait, mais je pense même que la psychiatrie est en train de naître. C'est-à-dire qu'on commence enfin à se poser le problème correctement. Et jusqu'à maintenant, on se posait le problème avec tous les stéréotypes de la culture. Mmh. Donc quand quelqu'un marchait à quatre pattes, comme notre ami Nabucodonosor, en aboyant, ce qui pour un empereur est quand même une position discutable, on pensait qu'il était possédé. Quand quelqu'un avait une crise d'épilepsie, on voyait de nos yeux, on voyait qu'il est parlé, puis tout d'un coup, il tombait, il convulsait, puis il se remettait à parler. Donc on avait la preuve qu'il était possédé, donc il était normal de le passer au bûcher. Et le dernier bûcher pour épileptique a eu lieu en Espagne en 1829.
Oui, c'est 1829, c'est très récent.
Ouais, c'est assez récent.
Mais alors, les méthodes des médecins
de soins,
mais c'est la trépanation. Ça, on ouvrait le cerveau. Enfin, je génial. Alors,
c'est horrible. On a
pensé qu'il y avait un esprit, donc on ouvrait le cerveau pour faire une fenêtre pour que l'esprit parte.
C'est
logique, quoi.
Mais ça, on trouve des trépanations paléolithiques, c'est-à-dire que
c'est très ancien, ça.
Très ancien. On trouve surtout dans la région du Maghreb, il y a énormément de crânes trépané, et on sait, avec des gros trous dans le crâne, et on sait qu'ils ont vécu longtemps parce qu'il y a un bourrelet osseux. Donc on sait qu'ils ont commencé à cicatriser. Alors, et il y a des trépanations en Italie du Nord aussi, où un empereur a été trépané. Et il y a le diagnostic, la cause de la trépanation, c'est qu'il avait mal à la tête et il pensait que tout le monde lui voulait du mal. Donc c'était une cause de trépanation.
Mais c'est quand même incroyable. Et alors les psychiatres se sont souvent prêtés à des expériences absolument sadiques. Non, ils cherchaient, d'accord, mais
ils ouvraient surtout.
Par exemple, la lobotomisation.
C'est pas sympa.
Il y en a plein qui ont fait ça pour
regarder les téléréalités encore aujourd'hui. Ça continue.
Il y a eu un prix Nobel pour ça.
Oui.
Un prix Nobel pour la lobotomie, mais c'était pas des psychiatres. La psychiatrie est née en 1970 et elle commence à balbutier. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de mettre au monde là, peut-être une vraie discipline.
Elle est née un peu avant, quand même.
Non.
Au 19e, non ?
Non, c'était des neurologues qui faisaient de la psychiatrie, c'était des prêtres, c'était des sorciers, c'était des trépaneurs, des chirurgiens, c'était des exorcistes.
Oui, pardon, mais toutes les expériences dans l'Allemagne nazie, par exemple, ont été faites avec la complicité des psychiatres par les médecins nazis.
Ils étaient aliénistes, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés, c'était des médecins en effet, qui étaient chargés de soigner la pneumonie du fou, puisqu'on pensait que la folie ne se soignait pas. Donc ils étaient médecins, aliénistes. Et effectivement, malheureusement, vous avez raison, un grand nombre de psychiatres allemands, de ce qu'on appelle appelait les psychiatres à cette époque, se sont laissés embarquer pour éliminer les fous au nom de la morale. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement piégés par la doxa, par les valeurs du contexte. Et j'ai vu ça... en Roumanie avant la chute du mur, avec exactement les mêmes images, on voit quelqu'un qui est défiguré et autour de lui il y a trois couples de beaux jeunes gens et la légende dit ces trois beaux jeunes gens ne peuvent pas acheter un logement, ils ne peuvent pas vivre parce que tout l'argent va pour s'occuper de ce fou qui a une vie sans valeur. Et que c'était donc au nom de la morale que les Allemands ont tué 200 ou 300 000 malades mentaux. En France, c'est 30 000 ou 40 000, ça dépend des enquêtes. Oui. Donc ça veut dire que c'est parce que la psychiatrie n'était pas une discipline autonome. Mmh. Donc les gens qui s'occupaient des fous... même
cherchaient un peu autre chose, quoi.
Voilà. Mmh. Et la définition est impossible à donner.
Bien sûr. Mmh. En tout cas, ça fait froid dans le dos quand on lit ce livre.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Boris Cyrulnik, notre invité pour la folle histoire des idées folles en psychiatrie chez Odile Jacob. Et ça tombe bien, elle est là parce qu'elle est un cas. En fait, elle a une consultation gratuite pour Joël Goron qu'on retrouve tout de suite.
À la lune, les humeurs de Joël Goron.
Merci Stéphane.
Voilà.
Alors vous savez, on a parfois gratuit. L'impression qu'on vit dans un monde de fous ou qu'on est tombé sur la tête. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la bizarrerie de certains raisonnements. Vous savez, par exemple, quand il y a un procès, il y a toujours une personne interviewée, pleine d'espérance, qui déclare oh, « Moi, de toute façon, j'ai confiance dans la justice de mon pays. » Eh bien, moi... plus ça va, moins j'ai confiance. C'est vrai qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide et que la justice n'est pas une science exacte. Mais il y a des moments où, franchement, on a l'impression qu'on est chez les dingues. Exemple, le procès de la petite Fiona. Vous avez tous suivi ça. Le père est condamné à 20 ans. L'avocat de la mère, évidemment, c'est son métier. Il est là pour défendre l'accusé, puisqu'on n'a pas trouvé de preuve de sa culpabilité dans la mort de la petite fille. L'avocat a réussi à ce que cette dame n'écope que de 5 ans. La seule chose certaine, c'est que la mère de l'enfant ne sait pas où elle a enterré la petite fille, sa petite fille, et qu'en plus elle a déclaré que comme elle adorait les enfants, elle a très envie d'en faire un autre. Il n'y a pas de raison, elle adore les bébés. Alors de deux choses l'une, ou elle est complètement frappadingue, ou c'est une manipulatrice grand format. Ce qui est presque sûr, c'est que cette femme est dangereuse. Non, elle ne descendra pas dans la rue pour flinguer n'importe qui. Non, elle ne braquera pas une banque, mais qu'elle puisse avoir encore être possible, responsable d'un enfant me paraît incroyable. Et comme elle a déjà fait 2 ans de prison, il lui en reste que 3 pour jouer à la maman, eh bien je trouve que 3 ans, ce n'est pas beaucoup. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Deuxième exemple, la même semaine. Pas un jour ne se passe...
La cour d'appel.
Le procès, par exemple. D'avoir assisté au procès, par exemple, peut-être.
Je continue. Oui. Pas un jour ne se passe à la télévision, à la radio, dans les journaux, où on ne cite des femmes battues avec les chiffres, une morte tous les 3 jours, les femmes qui n'osent pas encore porter plainte, encore que ce soit en progrès. Bref, une véritable catastrophe nationale. Ça fait plus que les accidents de la route ou les meurtres en tout genre. Et voilà qu'avec l'affaire Jacqueline Sauvage, qui avait été graciée par le président de la République, elle se voit condamnée à retourner en prison. Ok, elle a tué son mari. Mais faut quand même pas oublier qu'elle en a bavé pendant un bon nombre d'années auprès d'un homme qui, en plus, a abusé de ses filles. Alors c'est ça la réponse, un nouveau regard porté aux 220 000 femmes battues en France. Et elle, Jacqueline Sauvage, vous pensez qu'elle va recommencer, qu'elle est dangereuse pour la mettre ainsi sous les verrous, comme si ça n'avait pas été suffisant de vivre avec un monstre pendant 20 ans. Quand on était petit et que le professeur nous avait punis à tort, on disait « c'est pas juste » et c'était un peu enfantin. Eh bien, même quand on est grand, je trouve aussi qu'on peut continuer à dire « c'est pas juste ».
Voilà, eh ben dis donc, elle était très en colère. Joël Goron. C'est vrai, 10 ans d'un côté, 5 ans de l'autre. Voilà. Vous avez une réaction, Boris Cyrulnik ?
Oui, parce que l'infanticide est commis en majorité par des femmes et est assez peu puni. C'est-à-dire que actuellement, comme disait Michel Foucault, c'est le viol qui est le plus puni. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas punir le viol, hein, c'est un crime. Oui. Mais le barème est quand même un peu curieux. L'infanticide est peu puni.
Alors, c'est vrai.
Est-ce que...
Donc tuer son mari, ça coûte plus cher que de tuer son enfant.
Violer une femme, ça coûte plus cher que tuer un enfant.
Cela dit, il y a eu des périodes où c'était absolument pas puni, même l'infanticide.
Oui, oui.
Encore moins qu'aujourd'hui.
Il y a du mieux, c'est ce que veut dire Patrice.
Ouais. Ah bah, en Chine, c'était préconisé.
Oh, arrêtez, ne dérapez pas. C'est scandaleux. Ouais, allez, c'est vrai, je vous propose de revenir. Mais en tout cas, merci Joël, vous avez dit ce que vous aviez au fond du cœur. Et je trouve que si cette émission vous permet de déverser votre fiel,
pour une fois que c'est pas
moins bien utile. Voilà.
Je suis sûre d'être toute seule à penser ça.
Non, je sais que
j'ai
vous n'êtes pas seule.
J'ai posé des questions à des
femmes. Je sais que vous n'êtes pas seule,
et qui étaient assez choquées.
J'ai vu, par exemple, sur les réseaux sociaux, cette comparaison qui était...
Et la semaine prochaine, on parlera du prix de la baguette.
C'est ça. Pour une fois, c'est pas son boulanger. Son boulanger est bien content.
Allez, on retrouve Boris Cyrulnik dans un court instant pour la suite de La Bonne Heure.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, interview, c'est vrai qu'on reviendra sur l'orgacha tout à l'heure, parce que ça m'a sidéré, il faut bien le dire, l'orgacha. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un orgacha?
Pas encore, malheureusement.
C'est une en fait, il y a des chats vivants à l'intérieur.
Oui, et on les...
Ah bonjour, je suis Lisa Moulin. Ce serait la moindre des choses de me présenter.
Mais oui, bonjour, c'était Lisa Moulin.
Voilà, je ne suis pas... mégalomane à ce point-là.
Personne ne sait que vous étiez.
Et Lisa intervient maintenant dans toutes les émissions d'RTL à n'importe quel moment.
On ne présente même plus. Dis-moi, c'est quoi un orgacha? Un orgacha, je vais t'expliquer, c'est une caisse dans laquelle il y a plusieurs chats. Il y a une manivelle à l'intérieur. Et ça tourne à l'intérieur
c'est
et
pas ça, tout à fait ça.
Ça leur fait très mal.
Ça fait de la musique en fait.
Oui. Voilà.
Et ça leur fait mal et on entend le miaulement. Voilà.
Exactement. Et ça soigne les fous. Quelques questions. Ce qui est étonnant, Boris Cyrulnik, c'est que vous avez réalisé vos deux rêves d'enfant. Le premier rêve, c'est d'avoir une maison d'où on aperçoit la mer. Ça peut se comprendre. Mais le deuxième, c'est de devenir psychiatre. C'est quand même fou quand même de. Enfin, c'est fou. Quel enfant à 11 ans rêve d'être psychiatre? À part Elie Simoun.
Moi, oui, oui.
Ah oui aussi.
Ah oui, oui. C'est fascinant.
Ben, vous êtes psychopathe, c'est pareil. Voilà.
Mais c'est la preuve d'un problème. Je pense que c'est une bonne motivation d'ailleurs pour la psychiatrie.
Oui.
C'est que j'ai une enfance un peu spéciale et que, puisque ma famille a disparu pendant la guerre et que j'ai bien failli disparaître aussi, et que j'entendais dire autour de moi que si c'était à cause de la syphilis cérébrale de Hitler, on expliquait le nazisme
par la maladie d'Hitler.
Alors d'abord, ça a été la syphilis cérébrale. Et puis ensuite, ça a été le Parkinson. Mmh. Effectivement, il avait un Parkinson. Alors, ça me paraissait fou qu'on explique une folie sociale par la folie d'un homme. Tous les parkinsoniens deviennent
Et donc, vous avez eu envie de comprendre. Non, c'est une bonne...
J'ai eu besoin de comprendre.
Besoin, bien sûr.
Le truc du bras, en fait, c'était Parkinson.
D'accord.
Patrice
Oui, vous avez raconté donc, cette histoire dans Sauve-toi, la vie t'appelle. L'histoire de votre enfance. Vous avez failli être victime de la rafle. Vos parents l'ont été. Et vous l'avez raconté relativement tard parce que vous dites que quand vous la racontiez quand vous étiez enfant, personne ne vous croyait.
Non. Pendant la guerre, il fallait que je me taise, bien sûr, sinon je serais parti avec ma famille. Mais après la guerre, quand je voulais raconter comme un enfant ce qui s'était passé, les gens ne me croyaient pas ou même éclataient de rire. Et je pense que celui qui m'a fait taire pendant 40 ans, c'est un homme qui gentiment m'a dit « Tu racontes de belles histoires, voilà des sous, va t'acheter des bonbons ». C'est-à-dire que pour lui, c'était des histoires, ça pouvait pas être vrai. Donc je me suis dit « Les adultes ne peuvent pas comprendre ». Et je n'ai pas changé d'avis.
Joël, vous n'avez pas de questions?
Ça a déconnecté.
On a débranché. Je voudrais savoir si c'est vrai pour vous. Vous pensez, d'après vos observations, que la violence ne naît pas de la pauvreté, mais d'un manque de culture?
Je pense que ça dépend du contexte culturel, parce que jusqu'à il y a une ou deux générations, la violence était une valeur adaptative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Proche-Orient, les garçons sont héroïsés quand ils sont violents. Quand j'étais enfant après la guerre, un garçon qui refusait de se battre à l'école, qui n'était pas violent, était appelé par sa mère, il était appelé femmelette. Parce que j'ai connu l'époque où les mineurs travaillaient 12 heures par jour, ils rentraient dans un état de délabrement physique extraordinaire, et un homme qui n'était pas violent, qui ne se battait pas, était méprisé. Par bonheur, on a fait des progrès, et les femmes y sont pas étrangères, et aujourd'hui, la violence, dans notre contexte aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Destruction du couple, destruction des enfants, destruction du groupe. Mais ça, c'est parce qu'on a fait des progrès. Et si vous ne croyez pas, allez au Proche-Orient ou allez dans les pays en guerre et vous verrez comment instantanément la violence redevient une valeur.
Les autres, Régis,
alors, oui,
Eric,
oui,
peut-être.
Alors, vous êtes marié depuis une quarantaine d'années. Votre femme a été médecin, chercheur, peintre, mère de famille. Elle a même fait de la politique et ses activités successives vous ont donné l'impression d'avoir épousé plusieurs femmes.
Oui, c'est ça. J'ai eu plusieurs aventures intraconjugales.
C'est pratique. Avec la même.
C'est merveilleux.
Ouais,
c'est
drôle.
C'est
bien, ça.
Avec des femmes différentes et j'ai jamais divorcé.
Voilà. Et vous en parlez entre elles
Non, mais effectivement, j'ai épousé une étudiante en médecine. Et puis je me retrouve marié avec une femme qui sauve la France à la Seine-sur-Mer. Et elle a été chercheur, elle a été peintre, elle a été mère de nos deux enfants.
Elle est schizophrène en fait. Elle a plusieurs personnalités.
Oui, là j'attends l'avis du spécialiste. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de devenir fou avec les téléphones portables et les réseaux sociaux? Est-ce que là on peut parler de folie? Cette consultation plus de 150 fois, je crois, en moyenne par jour maintenant pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux.
Alors, je pense que la technologie modifie beaucoup notre manière de voir le monde. D'abord parce qu'on sait maintenant que les enfants, les adolescents, qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran, 3 heures, c'est vite fait. Hein.
Bah, la télé, déjà, c'est 3h40. Hein, donc...
structure leur cerveau de manière c'est différente ça. De leurs parents.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une fois que... Parce que ce n'est pas les mêmes zones cérébrales qui sont structurées par un écran...
Et stimulées.
Ou par une relation verbale, quelqu'un avec qui on parle, qui hoche la tête quand on lui parle. Ce n'est pas du tout la même relation. Ce n'est pas traité par les mêmes zones cérébrales. Mmh. Au-dessus de 3 heures, c'est une autre zone cérébrale qui s'hypertrophie. Et ces gens-là, une fois que le cerveau est sculpté par le milieu, et notamment par les écrans,
ils
voient le monde différemment.
Ça, c'est intéressant.
On est tous foutus.
Alors, maintenant, voilà. Pour voir le monde encore plus merveilleux...
Il s'agit de savoir comment ils le voient, ce monde.
Eh bien, ils le voient, ils résonnent en images.
Oui. Elle n'était pas terrible, cette question, je
trouve. Mais au contraire, c'est la
en images, voilà, il a répondu. Image, en images.
Bon,
ce que je vous propose maintenant, parce qu'Élie, vous êtes avec nous, et c'est une chance, mais parce que vous les aimez beaucoup, c'est les coquettes.
Ah, je les adore. Alors, il faut que je vous parle des coquettes.
Oui, dites-nous voilà. Un mot. Alors, des coquettes. Parce
d'abord,
avant
je
de prendre
serai
une fessée.
Le 6 et le 7 décembre au Casino de Paris, elles feront ma première partie.
Ouais,
et je suis fier de qu'elles fassent ma première partie. Je les connais depuis longtemps. Surtout la petite Marie, avec qui j'ai joué dans le placard de Francis Weber. Et elles sont pétillantes,
elles sont drôles.
Sexy. Elles
sont
aussi,
disent des horreurs.
Elles
disent des horreurs.
Voilà, elles sont parfaites pour ma première partie. Elles sont aussi trash que moi.
Ouais. Et ben
mais
voilà.
Avec une grande féminité.
Eh bien, je vous retrouve les coquettes, la petite fessée.
Elle patiente dans le noir. Elle arrive sans crier gare. Elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe, elle y met les formes. Elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. Ah, ah, ah. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir.
Aïe!
Oh!
Hey.
Bon bah voilà Stéphane, là vous vous dites, c'est un groupe de filles, elles chantent des chansons rentre dedans, elles sont féministes.
C'est dégueulasse!
Ouais! Hein.
Est-ce que si on était un groupe de mecs, on nous dirait.
Ouais, est-ce que si on était les Beatles?
Non Juliette, c'est trop les Beatles.
Ouais, est-ce que si on était Chico et les Gypsies?
Voilà.
Est-ce que si on était Chico et les Gypsies, on dirait ouais, vous êtes un groupe de filles. Est-ce que vous êtes...
Est-ce que vous êtes...
Ouais, est-ce que vous êtes...
Bah vous êtes quoi?
C'est quoi le mot pour définir la personne qui défend le droit des hommes?
Mais je crois que ça n'existe pas.
Mais il n'y a personne pour défendre le droit des hommes.
Les
comment
boules.
On va faire?
Mais c'est ballot.
Bon, donc au final, oui, on est féministe.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit un groupe de filles.
Mais on l'est, du lundi au samedi. Parce que le dimanche...
Je fais tout ça pour ça. Je te cuisine des anchois. Je critique ta mère. Tout ça, tout ça pour mon derrière. Je revois mon ex. Je porte du latex. Je me fais des couettes. Tout ça, tout ça pour qu'elle me fouette. Ah, ah. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Skip today, skala tap 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 squaya. Swimming every super day, skala tap 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 sweat today. Wow 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 wow, scooby dee 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 ba. Skala tap tap squaya.
Moi ça fait, pas moi ça fait,
bah moi ça fait.
Tu élèves la voix, tu fais craquer tous tes doigts, tu tapes en plein dans le mille, je cours les chines, je suis docile. Elle ne m'a pas déçu, les boules je les huche. Serais bien toute la semaine pour être sûr qu'elle me revienne. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir.
Les coquettes, la petite fessée, on va les retrouver. Le temps qu'elles reprennent leur souffle, on va les retrouver au micro dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors Boris Cyrulnik, est-ce que vous êtes favorable à la petite fessée du dimanche soir
ou du mardi matin?
Oui.
Non, non, mais je viens de prendre rendez-vous.
Ah. Bon, attendez, il y a une liste d'attente. Hein. Moi, j'y suis aussi.
Ah, oui. Bah, vous les retrouvez sur scène le 6 et le 7.
Je les adore, les coquettes. C'est mes copines.
Voilà. Alors, mesdemoiselles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes...
Enfin, toujours en cœur.
Toujours en cœur, oui.
Toujours en cœur. Au grand point virgule, jusqu'au 31 décembre à 19h45, en dehors du 6 et du 7 décembre, où là, vous êtes avec Eddy Semoun.
Oui.
En fait, vous appelez Juliette, Lola et Marie.
C'est ça.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées?
On s'est rencontrés sur Le Soldat Rose, une comédie musicale de Louis Chédid, il y a 9 ans maintenant. Et on est tout de suite devenus amis. Et puis après, on a suivi des parcours professionnels différents. Et un jour, on s'est dit, on a des trucs à dire ensemble. On a envie d'écrire quelque chose, des chansons d'abord et ensuite un spectacle. Et voilà où on en
s'est lancé,
aujourd'hui.
On a fait 30 minutes et Ellie était là à notre tout premier concert.
Ah, il faisait votre première partie.
Non, il était là, il a filmé tout le premier concert avec sa caméra et c'est de
nous encourager.
Mais alors, allez-y, les filles.
Il y a quand même une certaine cohérence dans les sujets qui vous préoccupent. La fessée, les bébés congelés, les proctologues.
Oui.
C'est pour ça qu'on a préféré vous inviter le jour où il y avait Boris Cyrulnik qui peut-être vous aider à en sortir.
Oui, on essaye d'aller assez loin dans les sujets. Ça va de l'amitié à l'excision. Voilà, on n'avait pas envie de rester dans des trucs trop girly parce que c'est pas que nous.
Mais c'est pas nous aussi, ouais.
Voilà, on s'est dit, on pense qu'on peut tout dire et aborder tous les sujets, même les plus sensibles. Donc c'est ce qu'on fait.
Ah, c'est très sensible, évidemment. mais c'est, on vous donnerait le bon Dieu sans confession et en même temps.
C'est ça qui est drôle.
C'est ce qu'on cherche. Pour pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut.
Oui, vous êtes mignonne, vous êtes sexy, vous êtes coquette, quoi.
Oui.
Le nom s'est imposé de lui-même, j'imagine.
Oui, c'est vrai que c'est arrivé très rapidement. Mais bon, pour nous, le mot coquette, ça veut dire plein de choses. Ça ne veut pas dire seulement.
Oui, c'est coquine aussi.
Mais c'est libre aussi.
Ça fait partie des définitions qu'on utilise. Nous, ce qu'on cherche absolument à faire, c'est ce qu'on veut.
Oui. Donc, et faire rire.
Et d'ailleurs, on commence le spectacle en donnant notre définition du mot coquette. Et du coup, ça fait un espèce de gros brouhaha. Parce qu'en fait, pour nous, c'est énormément de choses. Et c'est très long à expliquer.
Très dur d'en placer une quand vous êtes dans la loge. Impossible de parler.
Très bien. Les pipelettes. Merci, les coquettes.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, qu'on retrouve donc au grand point virgule jusqu'au 31 décembre. C'est à 19h45. Et avec vous,
Ellie. Et c'est un vrai cadeau pour moi. Vraiment. Les gens, les
aiment. Merci, Ellie. C'est un beau cadeau.
On va rappeler la salle.
C'est
au Casino de Paris,
6 et 7 décembre. Où elles se sont rencontrées d'ailleurs.
Oui, exactement. Oui.
Et ben voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Bravo. On va retrouver dans un instant Eric Dussard pour la chronique télé.
Vous écoutez RTL.
à la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec une émission qui va, de fou, qui va beaucoup plaire à Boris Cyrulnik. C'est l'émission des mariages arrangés.
Oui, alors je vais vous expliquer le concept, hein, Boris Cyrulnik, parce que je pense que vous n'avez pas regardé, j'en suis même à peu près persuadé. C'est une émission sur M6 où l'on a fabriqué des couples sur la base de tests scientifiques de compatibilité. Donc les phéromones, l'étude de leur caractère, etc. Et les célibataires ne se rencontraient que le jour de leur mariage. Ils se rencontraient pour la première fois le jour de leur mariage. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier épisode de la semaine dernière s'était achevé sur un suspense insoutenable. On ne savait pas si la mariée allait dire oui. Eh bien, ouf, on a eu la réponse hier soir.
Ah oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent?
Non.
Tenu de vous poser une deuxième fois la question, juridiquement, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin, ici présent?
Non.
Toujours pas.
Je suis sincèrement désolée.
Ah, mais c'est pas grave.
T'as l'air vraiment quelqu'un de bien, mais je ne pense pas être prête à m'engager aujourd'hui, malgré tout.
Voilà, merci monsieur, au revoir, bonne journée. C'est terrible, hein.
Pourquoi elle a fait tout ça pour ça?
Bah écoutez, elle a voulu tester l'expérience et quand elle s'est retrouvée face à lui, il lui plaisait pas trop. Non, puis elle ne se sentait pas, elle se sentait pas de se marier avec quelqu'un qui lui plaisait qu'à moitié, vous voyez.
Et il lui plaisait pas, pourquoi?
Ils n'étaient pas compatibles.
Ils n'étaient pas compatibles, en fait. Mais par contre, la science ne peut pas.
Mais attendez, parce que l'histoire n'est pas terminée, Stéphane, vous allez voir. Voilà, heureusement, on a un autre couple d'inconnus qui a accepté de se marier, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Bon, le problème, c'est qu'ils ont commencé par le pire. Ils avaient à peine emménagé ensemble que le mari, le nouveau mari, décidait déjà de partir, oui, parce qu'il se sentait pas bien, le pauvre. Résultat des courses, quelques jours plus tard.
Alors du coup, est-ce que vous avez envie de rester ensemble ou est-ce que vous décidez de divorcer?
Je crois qu'on va décider de divorcer.
Il m'a pas laissé de chance, en fait.
Ah ça non, il a répondu à sa place en l'espace d'une seconde. Vous avez vu, oui, on va divorcer.
C'est incroyable.
Alors, je précise que l'extrait que vous venez d'entendre était quasi exclusif pour beaucoup d'auditeurs, puisqu'il y a eu un problème sur M6 hier, et à ce moment-là, précisément, ils ont lancé la bande-son du film qui passait au même moment sur W9. C'est-à-dire qu'on entendait Schwarzenegger avec l'image de ces nouveaux divorcés. Donc, ils nous ont fait un joyeux micmac sur M6, entre M6 et W9.
Et eux, ils sont mariés, ils sont divorcés dans la...
Exactement. On a un autre couple qui donc a décidé de rester ensemble, mais malgré tout de divorcer. Voilà, parce qu'ils étaient sous pression à cause de ce mariage, mais ils sont restés ensemble. Donc on fait les comptes. On a un couple qui a refusé de se marier. Un autre qui vient de divorcer, là on l'a entendu à l'instant, mais vous connaissez la télé, rien ne se perd, tout se recycle. Du coup, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont casé le mari qui s'est pris un nom à l'église avec la fille qui vient de se faire larguer là par son mari. En clair, on prend les restes et hop, on fait un nouveau couple, Justin et Tiffany.
Tiffany et Justin se sont donc rencontrés sans rien connaître l'un de l'autre.
On avait tous les deux un petit peu envie de discuter de notre expérience de chacun de notre côté, comment c'était passé, de l'échec, puisque c'était pour nous un échec. À la base, on devait faire un apéro et c'est un apéro qui a duré jusqu'à 5h du matin. Et ben du coup, bah, c'est parti après la relation a commencé et là ça va bientôt faire 6 mois qu'on est ensemble et
bah,
et
tant
ça
mieux
se passe parfaitement bien.
Oui, parce qu'enfin ils ont quelque chose à se dire.
Exactement.
Parce que tous les autres, ils avaient rien à se raconter.
De toute façon, si ça marchait pas, on a encore d'autres combinaisons. On pourra caser le garçon avec la maquilleuse de l'émission et la fille avec le producteur du programme. Donc vous voyez, on n'est pas, pas au bout du caboulot.
Si on a des enfants, on les enverra chez Joël Gourand.
Forcément, un apéro.
Boris Cyrulnik. Un apéro. Vous les clients pour un certain nombre d'années. Boris Cyrulnik. Oui, cette société fabrique quand même des grands malades.
Non, mais vous savez que les mariages les plus arrangés, c'est les mariages spontanés, dits naturels, parce qu'en fait, on se rencontre pas tellement au hasard.
Oui, toujours sur la base de choses que l'on ignore, mais qui nous guident quand même.
Voilà, c'est ça. On se rencontre actuellement, on se rencontre sur un monde commun partageable, sur une formation partageable, sur le portefeuille des parents,
c'est ça,
et sur le niveau, le diplôme. Donc, c'est déjà très arrangé.
Très arrangé, oui, c'est la logique du système.
Mais comme quoi, voyez, alors, Stéphane. C'est bien finalement, ils ont tout échangé comme ça en dernière minute, c'est la preuve qu'il faut pratiquer l'échange. Un sujet d'ailleurs évoqué hier soir dans Quotidien sur TMC avec une élue de gauche qui à la base prenait la parole dans un colloque pour parler de libre-échange.
Tout le monde était d'humeur taquine, il y avait vraiment une excellente ambiance.
Les champions, messieurs, du libre-échangisme, du libre-échange, pardon.
Les champions du libre-échangisme. C'est-à-dire que DSK reviendrait en politique. Voilà. C'était peut-être ça, le message caché. Ouais.
C'est aujourd'hui l'anniversaire d'un autre homme politique, Jacques Chirac.
Oui, l'ancien président, qui fête aujourd'hui ses 84 ans.
Je ne sais pas s'il va vraiment le
fêter. Et ça fait très exactement 35 ans pour notre part qu'on ne se lasse pas de réécouter cet extrait.
Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac.
Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou...
Non, on ne chauffe pas l'appareil.
Chauffer l'appareil, voilà une expression de Jones qu'aurait dû reprendre Alain Juppé dans sa campagne. Vous voyez, hein, inimitable Jacques Chirac, même si on l'a beaucoup imité. Mais en ce jour anniversaire, je tiens quand même à rappeler que la meilleure imitation de Jacques Chirac, c'était chez Julien Lepers.
Allez Jean, alors vous, ce sont les imitations. Chirac, vous le faites facilement, le président Chirac.
Oui.
Oui.
Une tête de veau.
Ah, c'est vraiment très bien. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il le tient sur la longueur. Hein, vous avez vu, parce qu'il y a du texte, il tient la voix.
Crac-crac, il oublie.
Il est très fort.
Il oublie de faire crac-crac.
Bon, en tout cas, j'en connais une qui a vécu une sacrée frayeur lors justement d'un anniversaire de Jacques Chirac, c'est Muriel Robin. Souvenez-vous de ce qu'elle avait raconté chez Laurent Ruquier sur France 2. Hein, ce jour où Patrick Sébastien l'emmène à l'anniversaire de Jacques Chirac, alors président de la République. Et sitôt arrivé, Patoche dit à Muriel, vas-y, fais une blague au président.
Jacques Chirac est en face. Bonjour, raconte ta blague. J'ai à peine dit bonjour, j'ai dit attends, on va arriver. Si la blague, là, ta devinette, il y en a pour deux secondes. Enfin, je peux pas. Alors je commence, et puis la blague, elle est un peu. Je sais quelle est la différence entre une pastille de menthe et un trou du. Non. Et alors le président me dit alors, je dis le goût. Et là, il me fait. Comment ? Je dis une deuxième fois, le goût, il me redit comment ? Mais, quelques mois après, je fais l'émission de Denisot et Jacques Chirac, très gentiment, fait un petit mot, il me dit « Muriel, racontez à Michel cette lunette formidable que vous m'avez racontée le jour de mon anniversaire. »
Voilà, ça c'est du sadisme, on en reparlera avec Boris Cyrulnik, ouais. Qui l'avait très bien compris du premier coup. Hein.
Et on termine avec Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est ce soir, non ?
Sur France 2, oui, l'actrice Mélanie Doutet, cette fois-ci, qui va partir pour une destination qu'elle ne connaît
en
pas.
Mongolie.
La Mongolie. Alors, la Mongolie, c'est pas la première fois qu'il y a une émission qui se déroule là-bas, puisqu'ils avaient déjà emmené Virginie et Fira il y a
exactement,
quelques temps en Mongolie.
Oui.
Elle garde d'ailleurs un souvenir assez ému de ses pauses pipi en pleine nature.
Alors, moi, le problème, c'est que tout était plane, déjà. Hein, donc, il n'y a pas d'endroit pour se dissimuler. Donc, il fait moins 20 aussi, donc c'est toujours un peu compliqué de... Voilà.
Il
faut déjà trouver ce moment où il n'y a personne. Une fois qu'il n'y a personne, on se dit, OK, là, je peux y aller, on y va. Et là, les rennes arrivent. Pour boire à même la source.
Ah oui, parce que c'est
donc,
salé.
Donc, il faut se défendre avec un petit bâton.
Ah, c'est salé.
Et tu agites comme ça en même temps, et là, tu fais, c'est pas possible.
Pourquoi on n'a pas vu ça?
Quand vous entendez ça, Stéphane, je suis sûr que vous rêvez qu'on propose de faire rendez-vous en terre inconnue.
Non.
On ne l'a pas proposé encore?
Non, pas encore.
On peut vous emmener en boîte de nuit,
merci
déjà.
Merci beaucoup, Éric Dussard. Allez, on va retrouver Boris Cyrulnik pour le livre La folle histoire des idées folles en psychiatrie chez Odile Jacob. C'est absolument passionnant. On va retrouver Elise Moon dans un instant
avec
qui est avec
surprise.
Nous.
Ouais.
Une petite surprise pour un de nous. Voilà, RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
Il est midi 5, vous êtes sur RTL. C'est la suite de La Bonne Heure, bien sûr, avec Stéphane Bern.
Absolument. Merci beaucoup, Marie Guerrier. Nous retrouvons Boris Cyrulnik, qui a dirigé avec Patrick Lemoine ce livre « La folle histoire des idées folles en psychiatrie » chez Odile Jacob. Et puis, Elise Moon est avec nous. Il nous a préparé un petit canular téléphonique
voilà.
Dont l'un de
un
nous va
cadeau.
Être... La victime.
Cadeau, oh, bah, vous vous doutez bien sur qui ça va tomber.
Bah,
vous
moi,
savez.
Évidemment,
bah, non,
ça
bah,
tombe
bah,
toujours sur moi.
On connaît les amitiés dans l'équipe.
C'est sur le seul ringard de l'équipe.
Carmouze.
Ah non.
Voilà, c'est ça.
Allez, eh bien, vous le saurez dans un instant. Attendez, on le saura dans un instant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et alors, Elise Moon qui adore la psychanalyse.
Mais j'adore,
mais
je trouve passionnant.
Il est passionnant, Boris Cyrulnik,
ah ouais.
Tout le monde le
passionnant,
sait.
Passionnant.
Ah oui, évidemment.
Mais
alors,
j'ai une passion
maintenant.
Pour l'âme humaine, moi. J'adore les. Enfin, quand il y a des failles, alors moi, je m'y engouffre, j'adore ça.
Là, ça vous nourrit aussi, hein, dans votre
oui, oui, ça me nourrit, c'est complètement.
Et
mon
alors
spectacle,
là, justement, dans quelle faille vous êtes-vous
alors, je me suis dit, je vais faire un peu de promo pour mon ami Régis Maillot. Et donc, j'ai appelé. Moi-même, je vais jouer à la Cité des Congrès à Nantes. Et j'ai vu qu'il y jouait aussi. Donc je vais pas raconter le
non,
canular.
Non, on va l'écouter.
On va l'écouter, voilà. Je me suis occupé de lui.
Très bien.
Merci d'avance.
Bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à un responsable production concernant l'artistique?
C'est à quel sujet?
Alors, je suis monsieur Georges-André Gaillard. J'ai appris que monsieur Mayol, Éric Mayol, avait les jouets à la Cité des Congrès à Nantes. Et je voulais savoir comment m'organiser pour la première partie.
Il s'est reproduit, c'est ça? J'ai pas.
Alors, je ne sais pas s'il se reproduit, je ne sais pas comment est sa sexualité, mais en tout cas. Ah, pardon.
Vous l'avez fait à la Gad Elmaleh, là.
Ah, d'accord.
Je crois qu'il l'avait sorti, celle-là.
Ah bon?
Je me reproduis sur scène.
Ah, oui, c'est drôle,
oui,
ça.
Oui, non, mais
moi, j'aime pas du tout ce monsieur.
Alors, non, oui. Non, mais je veux dire, quand est-ce qu'il se produit?
Alors, le 20 janvier, il sera Éric Mayol ou quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Régis,
c'est comme ça qu'il s'appelle?
Ah d'accord. C'est Régis.
Ah bon, ouais. Tout le monde fait du one-man show en ce moment.
Ouais, c'est la grande...
Oh, oui, oui. Mon préféré, c'est Semoun. Alors, celui-là, il est marrant.
Bref. Ah ouais, Semoun, il est pas mal. Ouais.
Ouais.
Il fait partie des... Ouais.
Ah, il fait partie des grands. Voilà, donc moi, Georges-André Gaillard, moi, je... Voilà. Ce matin, je me lève, me regarde dans la glace, dis non, mon pote, j'avais une sacrée tête de bourricot. Bah c'est normal, puisque j'avais mis mes mules. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu. Comment?
Presque faire un. C'est un humoriste, vous aussi.
Ah oui, complètement. Ouais. Moi, je voulais savoir comment m'organiser pour la première partie, comment faire. Est-ce que je dois venir un petit peu avant de Mayol, là, ou de ce truc-là? Oui, oui. Vous en pensez quoi de mon humour? Je suis Place Blanche, je suis en taxi, puis il y a un monsieur noir qui monte dans mon véhicule. Je lui dis, vous allez où, Place Blanche? Oui, c'est un petit peu ce style-là. Quoi. Quand je vois le Mayol, là, ou je sais pas quoi, l'Éric Mayot, sur la toile, je me dis, c'est pas moderne, c'est pas drôle. C'est à l'ancienne, vous voyez. Alors que moi, j'ai l'impression vraiment d'être beaucoup plus moderne, quoi.
Écoutez,
hein,
ne demande que ça de vous entendre.
Dis donc, hier, je prends une ambulance et je l'entends, elle fait Pompidou. Pompidou, Pompidou. Vous voyez, c'est plus,
mais oui, mais oui.
On est plus dans notre époque. Moi, ce que j'amène, par exemple, dis donc, Donald Trump, t'étais dans Walt Disney.
Ah.
Vous voyez, c'est des choses comme ça.
Bah ouais. Ah oui, c'est ça, c'est se mettre dans l'actualité aussi.
Exactement, voilà, se mettre dans l'actualité. Ce que ne fait pas Maillon, là. Maillon faible,
ouais, ouais.
Là.
Ouais. Et donc, c'était quoi votre demande?
Alors, ma demande, pour savoir, donc, comme je vais faire la première partie d'Éric Mayon à la Cité des Congrès, savoir si on pouvait mettre des affiches de moi collées un peu partout.
D'accord,
dans
vous avez des affiches.
J'ai des affiches. Georges-André Gaillard, le roi du gag. G-A-G.
Le roi du gag.
Voilà.
G-A-G du gag. Ok, très bien.
Merci madame.
On fait comme ça, rappelez-moi de m'imprimer.
À bientôt.
Je vous remercie, au
gros
revoir.
Bisous.
Bonne
gros bisous.
D'humour. Au revoir.
Merci. Au revoir. Voilà, c'est de la...
Bravo.
C'est de la promo pour mon ami.
Oui, mais c'était pas
non, c'est que le 20 janvier, il va jouer à la Cité des Congrès. Je sais pas comment tu vas faire pour remplir d'ailleurs.
C'est plein.
Ah ouais.
Il y a une première partie.
Il y a pas de première partie. Ouais.
Non, moi, je prendrai la première partie.
Mais ces vannes étaient très bonnes.
Oui, elles étaient bien.
On les met dans votre spectacle. C'est exceptionnel.
Mais c'est repris du spectacle de Rio.
Voilà, exactement.
Régis Maillot, qui est à l'Alhambra ce soir avec tout RTL. C'est soir exceptionnel. Si vous voulez voir les gens. Ça va être aussi brillant sur scène que dans la salle.
essayons.
Ça va être sympathique.
Oui, ça va être sympa.
Ça va être très sympathique. Il y a une très bonne première partie.
Il y a une première partie.
Ouais, Jean-Pierre Gaillard.
Vous écoutez RTL.
Moi, président de la République.
Si j'étais président.
Moi, président de la République.
J'avais reconnu quand même le moi, président de la République. Alors, si vous étiez président de la République, Boris Cyrulnik.
Eh bien, si j'étais président de la République, je n'hésiterais pas une seconde, je partirais en courant.
Très bien. Mais avant, il faut se faire élire. Est-ce que vous auriez un slogan de campagne à leur suggérer?
Alors, je pense que le slogan, c'est « Moi, président, je vote pour vous, peuple oui. », alors qu'on demande au peuple de se soumettre au président.
Bien sûr.
Alors que c'est le président qui devrait être au service du peuple.
Le peuple est souverain, comme on dit normalement.
Le peuple est souverain et moi, président, je vote pour vous, peuple souverain.
Très bien. Est-ce que vous auriez une chanson ou un hymne qui pourrait correspondre à à votre façon de voir la politique ou en tout cas le pouvoir.
Je pense que quand j'étais gamin, j'ai beaucoup fréquenté Boris Vian et les coquettes sont dans cette veine.
Oui.
Et le beau jazz des années 30 et des années 50. Mm. Et si j'étais président, j'aurais musique, j'aurais de Boris Vian, on n'est pas là pour se faire engueuler.
Ah, génial.
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Non, plus tard, quand
formidable,
la...
hein.
C'est autre chose que la Marseillaise.
Ouais, ouais.
De Boris Vian, on aurait pu prendre son indicatif du tabou. Il faisait Ah, si j'avais un franc 50 en ce moment, ça serait pas mal.
Oui. Eh bien, on va retrouver maintenant. C'est la génération Boris Vian.
Oui.
Patrice Carmoz. Grand exercice quotidien. Le test, le quiz musical. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de fou et de folie, puisqu'il a dédié son quiz aux fouilles et à la folie.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmoz.
Alors Patrice, nous jouons, je le rappelle. Alors,
ça met les gens dans un état de blindness.
Deux équipes s'affrontent pour le quiz musical sur la folie et les fous.
On est prêt.
Un multicuiseur Cook at Home de Russell Hobbs. Hobbs, il a fait ce multicuiseur. Il y a 11 programmes, c'est extraordinaire. C'est allez voir sur russellhobbs.com.
T'as envie de l'avoir, toi.
Vraiment, j'ai envie de l'avoir.
Le rêve d'une
et
ville.
Alors, si on a perdu, c'est pas mal, on n'a pas tout perdu.
Non.
Parce qu'il y a le coffret en bois Kallios de mycallios.com. C'est de l'huile d'olive bio parrainée par le chef Juan Arbelez, vous savez gentil Juan qui était dans l'émission Comment ça va bien avec moi. Il fait de l'huile de l'huile.
Il est malade.
Vous jouez de l'huile aussi. Boris Cyrulnik qui fait de l'huile. Formidable.
Alors vous jouez. On va mettre Annie dans votre équipe pour Catherine. Et puis le reste du monde joue pour Thierry.
Les intelligents ensemble.
Donc il faut.
Allez, on y va. Qui chante? Perdez pas de temps.
C'est parti.
Moi, je ne vois rien, je suis.
William Scheller.
Il faut
trouver le
chanteur.
William Scheller,
mais c'est Stéphane qui l'a dit en premier, donc c'est un point pour l'équipe SB.
Tout à fait. Tout le monde joue ensemble aujourd'hui?
On va jouer maintenant contre Régis alors.
On a encore changé.
Allez.
D'accord.
Françoise Hardy.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça s'appelle
Enter.
C'est avec les fous.
L'île aux fous.
Les fous de Bassan.
Les fous de Bassan.
C'est animalier maintenant. Ouais. Eric, vous êtes prêts? C'est pour vous.
Allez, je sens que ça va bien.
Johnny.
Et les deux, je donne un partout. 3-1 donc pour SB.
Requiem pour un fou.
C'est moi, c'est plutôt moi.
Je
le conteste pas.
Je vais pas mettre Joël là-dessus parce que je pense qu'elle va pas reconnaître. Je sais même pas si vous allez reconnaître. Essayez tous les deux, tiens.
Okay.
Allez, contre eux.
Maître Gims.
Non.
Si on l'entendait, vous savez.
C'est Bruno.
Claudio Cabré.
Nabila, c'est le mec de Nabila.
Donne de toi, Nabila.
Isabelle. Je sais plus comment il s'appelle.
Sofiane.
Voilà. Il a sorti un disque là.
Oui, mince.
Allez, en revanche, là, Joël.
J'ai dit le mec de Nabila.
Déjà, c'est
le mec de Nabila.
C'est
pas un type.
Un peu d'indulgence.
Un peu d'indulgence.
3-2 pour qui?
Et vous restez en tête, Stéphane.
Ouais. Bon.
Le poignardé.
Attention. Joël, c'est fou.
Julien Clerc.
Il l'a dit.
C'est bon.
C'était contre Joël.
Mais tu l'as pas dit.
Joël, elle a ton ligne Renault depuis 11h15.
Allez, on continue.
Bien, c'est pour vous là.
Thierry Pastor,
oui.
C'est qui?
T'as rien compris.
Qui a chanté Coup de folie.
Ah non, ça j'ai rien.
Coup de folie. Ah oui, on s'en souvient plus forcément, mais il y a qui s'en souvient encore.
Bien sûr.
C'est dans toutes les courses des années 80.
4-3 pour l'équipe SB. Eric, c'est pour vous ça.
Ah, c'est Frédéric François.
Oui.
Comment vous pouvez dire un truc pareil?
Frédéric François.
Frédéric François, c'est pour vous.
pour lui, c'est tellement évident. Non.
Est-ce que tu avais vu le sourire de Stéphane?
Oui, bah, c'était pour lui. C'était pas pour moi.
C'est ce qu'on lui passe au salon de coiffure quand il fait son brushing.
Allez, Joël, écoutez bien. Il faut vous rattraper un peu cette équipe.
Je t'aime à la folie.
Serge Lama.
La réponse de Joël était comment il s'appelle celui-là.
Alors, les scores.
5 à 4.
C'est je t'aime à la 5 à 4. Et c'est donc Catherine qui gagne le multicuiseur. Et Thierry n'a pas tout perdu à Épinal puisqu'il gagne ce très beau coffret. Il y a même de la tapenade, il y a vraiment des olives de Kalamata, il y a de l'huile d'olive, Calios qui est bio.
C'est bien. Hein.
Comment vous faites de l'huile, Boris? Vous avez des oliviers? Non, c'est pas du tout.
Il habite dans le sud. Hein.
Ah ouais.
On peut habiter dans le sud sans avoir d'olivier.
Enfin, c'est plus simple pour avoir des oliviers d'habiter dans le sud.
Vous avez un olivier qui fait des olives qui fait de l'huile.
Et bien voilà.
Voilà, ben, on a trouvé la réponse.
Ah, c'est une production très artisanale. Oui.
Écoutez, si vous voulez retrouver Boris Cyrulnik, je vous propose de lire cette folle histoire des idées folles en psychiatrie chez Odile Jacob. C'est passionnant, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Mais c'est vrai que c'est une discipline très nouvelle, la psychiatrie. En tout cas, vous
le
en êtes
un. Le monde serait dangereux sur psychiatrie.
Exactement. Ouais. Demain, nous serons dans notre genre le rire quand même avec Laurent Lafitte pour le formidable film Papa Maman 2 qui nous fait beaucoup rire. Voilà, merci à tous, merci Elie d'être venue.
Merci beaucoup.
Merci Régis ce soir, bonne chance à l'Alhambra.
Je prends.
Et à demain, RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.